Vous écoutez RTL.
Tout de suite, une civilisation qui a tout inventé, la Mésopotamie. Bonjour Jean-François Dortier.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Vous êtes directeur de publication du magazine Sciences Humaines. Vous consacrez un dossier à l'histoire des grandes découvertes et donc à la Mésopotamie. Alors on va se situer, pour commencer, dans le temps et dans l'espace. C'est où et c'est quand les Mésopotamiens ?
Alors la Mésopotamie, c'est une région aujourd'hui qui est bien connue pour de mauvaises raisons.
Oui.
C'est l'Irak et la Syrie. Ces deux pays sont arrosés par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, où il y a une immense vallée. Et si vous allez au sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire au sud de l'Irak actuel, eh bien c'est là qu'il y a 10 millénaires avant Jésus-Christ est apparu pour la première fois l'agriculture, l'élevage, les premiers villages. Et 5000 ans plus tard, c'est là qu'ont émergé les premières villes, les premiers états et toute une série d'innovations, un véritable feu d'artifice d'innovation.
On fait une petite liste rapide, après on rentrera dans les détails.
Oui, l'écriture, les mathématiques, la roue, l'arrière, la charrue,
oui.
L'architecture, la ville, l'État, je l'ai dit.
Oui, l'irrigation.
On pourrait citer aussi l'astronomie, la médecine, l'école, la banque, le salariat. C'est un véritable Big Bang culturel.
Et on va le détailler, évidemment, grâce à vous.
Et comment... se demander aussi comment cette civilisation a pu créer autant de choses en si peu de temps. Réponse dans un instant, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Entre Méditerranée et Golfe Persique, cette région que l'historien Polybe nommait Mésopotamie, ou terre entre deux fleuves, couvrait le territoire de l'Irak actuel.
RTL.
Pendant près de 5000 ans, le sable brûlant du désert irakien a gardé les traces des fondateurs de la plus vieille civilisation connue, les Sumériens.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La ville, l'État et avec eux les maths, l'écriture, l'irrigation, l'astronomie, tout ceci a été inventé en Mésopotamie à partir du 4e millénaire avant notre ère. Comment ce Big Bang culturel a-t-il eu lieu? C'est ce que nous raconte notre invité Jean-François Dortier. Cette histoire des Mésopotamiens, on la connaît depuis longtemps?
Non, ça fait très peu de temps que, pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, la Mésopotamie, ce n'était qu'une légende. C'était une légende qu'on trouvait dans la Bible, où on parlait, la tour de Babel, c'est la tour de Babylone. Babylone, c'est la capitale de la Mésopotamie du temps de l'Empire.
Mmh.
On parlait des jardins suspendus de Babylone, 7e merveille du monde.
Parce que c'était trop beau pour être vrai, c'est ça?
Voilà, on pensait qu'il s'agissait uniquement d'une légende.
Mais pourquoi? Pourquoi on a attendu le 19e siècle? Il n'y avait pas de traces de
non,
cette civilisation?
Non, effectivement. Alors, il n'y a pas de traces. Pourquoi? Parce que la civilisation jumelle, celle de l'Égypte, avait construit des pyramides.
Mm-hmm.
Il y avait effectivement la tour de Babylone, c'était aussi une pyramide. Mais sauf qu'elle était fabriquée en briques, parce que la Mésopotamie n'avait pas de pierre. Donc, tout était fabriqué en briques. Il y avait des palais, il y avait des temples, il y avait des pyramides. Mais dès lors que la civilisation a disparu, l'argile s'est désagrégée, et puis tout ça a été envahi par le sable et englouti, et il faut attendre donc les colons au 19e siècle ou qui arrivent ici, qui sont des colons occidentaux, et là ils rencontrent des paysans qui leur disent là-bas, vers la colline de briques. La colline de briques, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fouillant, on découvre non seulement des vestiges de monuments, mais on commence à trouver des milliers et des milliers de tablettes avec dessus des inscriptions, l'écriture cunéiforme. Le paradoxe de l'histoire, c'est que cette civilisation était engloutie sous les sables, alors qu'en Égypte, où on écrivait sur le papyrus, eh bien eux, ils ont disparu, et là, les tablettes d'argile, du coup, elles ont été conservées. Et on a commencé à les décrypter, ça a mis beaucoup de temps. On a commencé à lire l'écriture et mésopotamienne, enfin les écritures, il y en avait plusieurs, qu'on appelle le cunéiforme. Et là, on a découvert que ce n'était pas une légende. Effectivement, il y avait eu une grande Babylone, il y avait eu des pyramides, il y avait eu des temples, il y avait eu des mathématiques et tout ce dont on va parler.
Jean-François Dortier, dans le magazine Sciences Humaines, vous décrivez cette effervescence, cette création, cette créativité en Mésopotamie. C'est là-bas que naissent les premières villes. Elles ressemblent à quoi avant cette poussière de sable?
Alors, une ville, tout d'abord au sud de la Mésopotamie, c'est là qu'il y a les premières villes. On en parle de Ur, elles ont pour nom Lagash, Uruk, plus tard ce sera Babylone. Mais les premières villes, il faut se représenter. Donc, une petite ville de quelques milliers d'habitants, c'est pas non plus des grandes mm-hmm. capitales au départ, mais quand même, c'est des villes fortifiées, des citadelles, avec à l'intérieur, donc un palais pour le roi, parce que c'est dirigé par un roi, quelques temples, des avenues où il y a des artisans, des commerçants, des ouvriers, des prostituées. Et puis, à l'extérieur de cette ville, parce que c'est une cité-état, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout autour, on a des champs cultivés, irrigués, avec, où on cultive de l'orge. On cultive du blé, et donc on mange des galettes. On cultive des légumes, des pois chiches, des lentilles. Il y a des vergers avec des fruits, des pommiers, des figuers, et puis des palmeraies. Avec, bah.
Et donc, je vous interromps, oui. Il y a un roi.
Oui.
Et des gens qui travaillent pour le roi, on peut appeler ça une administration d'une certaine façon. Est-ce que la Mésopotamie invente l'État ?
Exactement, voilà pourquoi on appelle ça des cités-états. La naissance de la ville, c'est également la naissance de l'État, d'où le nom cité-État, qui n'est pas simplement une ville au sens où on l'entend, mais toute une région qui est dominée par un centre administratif, culturel, et qui rayonne avec donc une administration. Qu'est-ce que c'est ce roi ? Le roi, il a tous les pouvoirs. Il est à la fois le chef des armées, c'est aussi un grand prêtre, c'est le chef religieux. Il a donc, et c'est aussi un grand administrateur parce que c'est lui qui organise toute l'irrigation. Il doit donc avoir tout un appareil d'État à sa disposition qui va lui permettre de gérer la société.
Alors justement, cette administration qui a besoin d'instruments de gestion, c'est pour répondre à ses besoins que l'écriture et les mathématiques vont naître presque en même temps. À tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Tous les jours, l'antenne est à vous dans On est fait pour s'entendre. Nous vous invitons à une conversation sur des sujets qui vous concernent, qu'il s'agisse des relations humaines, de nos forces, de nos fêlures aussi, du travail, de l'éducation, de la santé ou encore du bien-être. Et vous donnons la parole en direct entre 15h et 16h sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité voyage dans le temps. On est en 3500 avant notre ère, entre le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie, l'actuel Irak et Syrie. Et on découvre que cette civilisation a tout inventé, ou presque. La ville, l'État, vous nous avez raconté comment ils sont nés, Jean-François Dortier, et l'administration mésopotamienne, forcément, qui va avec, avait besoin d'instruments pour être efficace. Est-ce que c'est comme ça que l'écriture est née ?
Et oui, c'est en lien directement avec la gestion de toutes ces activités d'administration que les premiers signes d'écriture vont être inscrits sur les tablettes qu'on appelle cunéiforme, en écriture cunéiforme.
Alors c'est quoi ? Ça ressemble à quoi l'écriture cunéiforme ?
Alors, c'est cunéiforme, ça veut dire coin, hein, l'étymologie. Donc ce sont des petits signes qui ressemblent à des clous et on a un instrument pour simplement fixer sur ces tablettes d'argile des petits coins et à partir de là, on peut faire un langage.
Mais c'est solide ?
Qui est logographe Afrique et en même temps c'est des sons et des signes, mais peu importe la technique de l'écriture. Donc oui, c'est solide puisque ce sont des argiles. Et c'est même important que ce soit solide parce qu'il s'agit de graver dans le marbre souvent des sceaux qui peuvent être des contrats commerciaux, qui peuvent être des textes de loi, qui peuvent être des listes de règlements de justice, qui peuvent être aussi toute une série de nombres qui vont être inscrits pour pouvoir gérer les impôts, pour pouvoir gérer toute une série d'activités administratives. Et on voit bien que c'est un instrument, l'écriture et les mathématiques, pour gérer la société.
Oui, c'est ça qui est fascinant et ce que l'on découvre dans les grands dossiers des sciences humaines, le magazine que vous dirigez, Jean-François Dortier, c'est que c'est vraiment lié, quoi. L'écriture et les mathématiques naissent en même temps, oui. C'est-à-dire que sur certaines de ces petites tablettes d'argile dont on voit les photographies qui ont été retrouvées, dont on voit les photographies dans le magazine, il y a des problèmes de maths, quoi.
Oui, prenons un exemple concret.
Oui.
Tous les ans, le Tigre et l'Euphrate ont des crues et la région est inondée. Mmh. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut des systèmes d'irrigation pour pouvoir réguler les eaux. Les terres se retirent, les eaux se retirent et puis il faut redistribuer les terres. Donc des vastes terres, et là les paysans vont se disputer en disant « moi j'étais là, non j'étais là, j'étais là ». Donc il faut calculer les surfaces, pour calculer les surfaces, eh bien, il faut inventer la géométrie. La Mésopotamie est la mère de la géométrie parce que il faut faire de l'arpentage et donc pour faire de l'arpentage et calculer sur un terrain biscornu l'espace, eh bien il faut des triangles, des rectangles, des carrés. 1500 ans avant Jésus-Christ, le théorème de Pythagore avait été trouvé par les Mésopotamiens. Et puis ensuite, on note sur les tablettes d'argile, eh bien, voilà, telle famille possède autant d'hectares. Je parle en langage moderne. Si les enfants se disputent les terrains, il faut diviser par deux, par trois. Qu'est-ce que ça veut dire, un terrain qui ressemble à une sphère divisée par deux ou par trois? Voilà comment on est les mathématiques. Et on a même des exercices qui sont faits pour les élèves scribes qui vont devoir gérer tout cela.
Des histoires de baignoires qui se remplissent et qui se vident.
Exactement. Déjà. Donc vous travaillez, bien sûr, vous trouvez sur des tablettes mais automatiques, ça ressemble exactement à des exercices de primaire. Oui. Soit un canal d'irrigation à creuser sur 20 mètres, il fait tant de profondeur, tant de largeur. Il faut pour un ouvrier tant de temps pour pouvoir faire creuser un mètre cube. Il est payé tant de l'heure. Combien va coûter? Calculer ça.
Ça rappelle des souvenirs.
Et on trouve ça sur ces tablettes.
En Mésopotamie, les savants se regroupaient pour résoudre ensemble des problèmes de construction, de calendrier ou d'administration. C'est comme ça qu'ils ont inventé le temps, notre temps, celui qui découpe les heures et les minutes en 60 unités. On vous a dit, ils ont tout inventé. A tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hu. Jusqu'à 15h sur RTL.
Babylone, qui fut la capitale de la Mésopotamie quand cette région est devenue un empire, civilisation incroyable que l'on découvre depuis tout à l'heure sur RTL grâce à notre invité Jean-François Dortier. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine Sciences Humaines et que vous publiez votre dossier de rentrée sur l'histoire des grandes découvertes. Et forcément, la Mésopotamie prend une grande place dans ce dossier. Mais pourquoi la Mésopotamie et pas, je sais pas, la Chine par exemple, où on a aussi découvert? Après, c'est ça? C'est plus tard, on en est sûr?
Oui, la civilisation chinoise est un petit peu plus tardive. Si on entend par civilisation l'émergence des villes, des états, de l'écriture, des mathématiques. Mais c'est un phénomène totalement indépendant en Chine.
Il n'y a pas d'inspiration, les Chinois ne sont pas inspirés par les Mésopotamiens.
Il faut savoir que donc, ce phénomène il y a eu lieu en plusieurs points du globe, de façon parallèle et indépendante. Alors, à côté de la Mésopotamie, il y avait la sœur jumelle de la grande civilisation, qui est l'Égypte. Mm-hmm. On s'est beaucoup interrogé sur la possibilité ou pas qu'il y ait eu une influence de l'une sur l'autre, sachant que la civilisation mésopotamienne date de 100 à 200 ans avant. Mais l'écriture égyptienne ne ressemble pas du tout à l'écriture des cunéiformes. Donc on peut supposer que c'est une invention indépendante.
Mais donc dans l'état actuel des connaissances, c'est la Mésopotamie qui gagne le match, si j'ose dire.
Oui, mais elle gagne le match, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a diffusé partout. Parce qu'en Chine, on est certain que vous reprenez à peu près les mêmes causes, vous avez les mêmes effets. Dès qu'apparaissent des pouvoirs centraux, il va avoir besoin d'administration et donc de mathématiques, d'astronomie, d'écriture et toutes des classes de... Si vous allez aussi en Amérique, il s'est passé la même chose avec les Olmèques et plus tard les Mayas. Et vous retrouvez chez les Mayas des pyramides, mais aussi de l'écriture, mais aussi de l'astronomie,
parce que
aussi des calendriers.
Les savants se regroupent, c'est ce qui se passe. Les villes fonctionnent comme des aimants et donc les intelligences supérieures se regroupent et inventent, c'est ça?
Alors, ça vient même sans doute du haut, c'est-à-dire c'est les castes dominantes qui commençant à vouloir ayant une puissance de plus en plus grande sur un territoire de plus en plus vaste, contrôlant des milliers de personnes et des territoires vastes, ont besoin d'un appareil administratif, à la fois d'une armée, de castes de prêtres et de castes de lettrés. Et on va former des gens qui vont effectivement, qui sont des sortes de fonctionnaires au service du roi et qui vont développer toutes ces technologies intellectuelles que sont l'écriture. Il faut aussi, par exemple, maîtriser, comme vous l'avez dit, le temps. Il faut des calendriers, des calendriers agricoles.
Et alors ça vient du talent des Mésopotamiens pour l'astronomie. Qu'est-ce qu'on a découvert à ce sujet en 2015, Jean-François Dortier?
Alors on a découvert récemment plein de choses, notamment qu'ils avaient calculé, ils avaient bien repéré dans le ciel toutes les étoiles, mais également les planètes, qui ont un cours particulier, les Saturne, les Vénus, Mars, et ils avaient pu calculer leur mouvement. Récemment, il y a une découverte encore plus extraordinaire, elle date de l'été 2017. Oui. Ils avaient inventé la trigonométrie. Ils savaient Alors, la trigonométrie, c'est quoi en 3 secondes ? Mmh. C'est un instrument de torture pour les collégiens, normalement.
Ah oui, j'avais à peu près cette définition-là
voilà,
aussi. Ouais.
Où on parle de sinus, cosinus, tangente. Ouais. Le trigone, c'est simple. La trigonométrie, ça vient de trigone. Le trigone, c'est un triangle. De la même façon qu'on parle d'un pentagone, c'est 5 côtés. Un hexagone, 6 côtés. Et si vous en avez 3, c'est un trigone, c'est un triangle. Mmh. Et si vous savez connaître les relations d'un triangle entre les côtés et les angles, ce qui nous fait souffrir, pour nous, ça ne nous sert à rien, sinon à nous faire du mal. Mais pour ces civilisations antique, c'était l'essentiel pour, je l'ai dit, faire de l'arpentage, pour pouvoir aussi calculer le mouvement des étoiles, qui était essentiel pour faire un calendrier.
Alors justement, pardon, je vous interromps. Tout à l'heure, avec Stéphane Carpentier et Christelle Robière, je disais, si je peux dire l'heure, 14h57 maintenant, il était 13h57 d'ailleurs tout à l'heure, c'est grâce à la Mésopotamie.
Oui, c'est-à-dire notre système qui est assez particulier, le calcul des heures, puisqu'il n'est pas fondé comme le calcul des distances sur un système décimal, des mètres, des kilomètres, tout ça, ça se divise par 10, par 100, par 1000. Ouais. Et cela, les heures, elles se divisent par 60, et les minutes, elles se divisent par 60 aussi. Ouais. C'est un système sexagésimal. Ça vient directement des Mésopotamiens.
Ça sert à quoi que ce soit divisé par 60 ?
Alors, justement sur la trigonométrie, vous allez voir que c'est assez compliqué. Quand vous voulez diviser par exemple 10 par 2, c'est facile, ça fait 5. Vous divisez par 3, c'est un peu plus compliqué parce que ça fait 3,33.
Oui.
Par 4, ça. Si vous divisez une heure par 2, ça fait une demi-heure. Par 4, ça fait un quart d'heure. Par 5, ça fait 12 minutes. C'est que des chiffres ronds. Par 6, ça fait 10 minutes.
Génial.
Et donc, en fait, c'est un système beaucoup plus simple. Un peu plus difficile à apprendre, mais dès qu'on l'a maîtrisé...
Il nous reste malheureusement, le temps file trop vite, c'était fascinant. Pourquoi elle disparaît, cette civilisation ?
Comme toutes les civilisations, malheureusement, elle est disparue parce qu'il y a eu beaucoup de guerres. Oui. Ils étaient en conflit avec d'autres civilisations. Au départ, d'ailleurs, l'Empire babylonien, c'est déjà le produit d'une conquête d'une ville qui assujettit les autres villes. Donc, il y a un grand roi, c'est-à-dire un empereur aujourd'hui, qui domine les petits roitelets. Et puis ensuite, ils sont attaqués par les Assyriens, qui est une autre civilisation. Puis les Hittites. Bon. Et puis donc, les combats vont faire qu'à un moment donné, Babylone va être détruite, va être soumise et va disparaître sous les sables. C'est à 150 km de Bagdad, au sud de Bagdad. Mmh. Et puis, le temps va passer, les villes vont être désertées. Et dès que le centre névralgique du pouvoir, justement, est détruit, eh ben, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'activité. Et le sable passe par là et ça s'engloutit. Il faut attendre 2 millénaires.
Voilà, le 19e siècle pour les retrouver. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Dortier. Sciences humaines, les grands dossiers, c'est en kiosque. Et c'est le numéro de rentrée. Merci, c'était fascinant.
Vous écoutez RTL.